ravie de vous retrouver sur Radio Judaïca Lyon. Patricia Drey pour votre émission consacrée à la littérature. Et dans un instant, j'aurai le plaisir de recevoir Bruno Drey pour son dernier ouvrage paru aux éditions Valencin, Les langues européennes à la lumière de la Bible. Nous évoquerons cet ouvrage avec l'auteur. Ensuite, nous écouterons la chronique de Nikos Kinazi-Teboul consacrée cette semaine au mot langue. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, j'aurai le plaisir de recevoir notre amie Martine pour quelques infos sur le retour de la culture dans notre région. En attendant bien évidemment le retour de son émission dès le mois de septembre, nous le souhaitons tous, un petit supplément d'armes, et Martine commencera à nous donner des indications sur les prochains rendez-vous culturels de notre région. Bonjour Bruno Drey.
Bonjour.
Bonjour, ravi de vous recevoir sur Radio Judaïca Lyon pour évoquer, je le disais, votre dernier ouvrage intitulé « Les langues européennes à la lumière de la Bible ». Tout un programme, mais avant de l'évoquer, quelques mots de votre parcours, si vous le voulez bien.
Oui, eh bien, je suis né à Lyon en 1967. J'ai résidé donc dans la capitale des Gaules pendant 30 ans. Alors, j'avais poursuivi comme cursus scolaire la voie de la comptabilité.
Oui.
Et j'ai été comptable les premières années de ma carrière professionnelle dans la région lyonnaise. Mmh. Et j'ai dû quitter Lyon en raison d'un événement grave, d'un braquage à main armée.
Oui.
Et j'ai déménagé en août 1997. Pour m'installer sur la Côte d'Azur,
voilà.
Plus précisément Antibes-Juan-les-Pins.
Antibes-Juan-les-Pins. Vous vivez sous le soleil
sous le soleil
d'Antibes, voilà.
Près de la mer, c'est ouais. Très agréable.
Eh ben, on n'en doute pas.
Oui, j'ai été également réceptionniste dans un hôtel Camois pendant 6 ans.
Oui.
Et d'ailleurs, j'ai utilisé les idiomes que je parle couramment, à savoir l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le russe.
Mm-hmm.
Et c'est à Lyon où j'ai parfait en fait mes connaissances puisque lorsque j'ai préparé le baccalauréat, alors que Lyon, j'ai eu comme professeurs messieurs Yossi Cohen et Daniel Moyal.
Ah oui,
pendant 2 ans.
Oui.
Et donc c'est à cette occasion que j'ai commencé à apprendre l'hébreu.
Oui.
Donc, les deux premières années, eh bien, j'avais décidé de continuer à apprendre l'hébreu par moi-même, mm-hmm. par le biais en fait de cours par correspondance, par le CNED,
oui.
et je m'étais rendu compte que j'avais la possibilité d'apprendre aisément une langue étrangère. Par moi-même.
Mm-hmm.
Notamment également par rapport à ma pratique religieuse d'antan, qui était très assidue, puisque je fréquentais de manière permanente la communauté juive de Sarfon. J'étais véritablement un pilier de synagogue.
Oui.
Tous ces éléments, eh bien, m'ont conduit, permis, eh bien, de parfaire mes connaissances en langue hébraïque.
Alors, justement, depuis 20 ans, vous vous consacrez à un travail minutieux de recherche sur les connexions entre la langue hébraïque et les principales langues européennes. Vous venez de nous le rappeler, vous êtes un autodidacte, hein, et je me demandais pourquoi cet intérêt particulier pour le lien entre l'hébreu et les langues européennes, Bruno Drey.
L'exploration d'une méthode hébraïque qui a nécessité près de 15 années de travail,
oui.
Eh ben, je m'étais rendu compte en 2001 qu'il était possible de pouvoir établir des connexions dans un premier temps d'ordre consonantique entre des termes français et des mots hébreux.
Mmh.
Et face à cette découverte, parce que je pensais que j'avais été le premier dans le monde francophone à pouvoir établir ces connexions, donc je m'étais véritablement lancé dans cette aventure de recherche linguistique.
Oui.
Et j'avais publié en janvier 2002 un premier essai qui s'intitulait Sur les pas de Babel et qui présentait des correspondances consonantiques à partir de près de 100 termes hébraïques.
Oui.
Par la suite, et avec le conseil de Monsieur Claude Agège, donc de ce grand professeur du Collège de France,
oui.
Eh bien, j'ai poursuivi donc cette aventure et j'ai établi par la suite des connexions étymologiques tout à fait surprenantes, très démonstratives entre la langue hébraïque et donc les principaux idiomes parlés de nos jours sur le vieux continent, à savoir le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien,
oui.
Et le russe. Et là, je suis arrivé véritablement à un résultat très, très intéressant, puisque à ce jour, j'ai établi près de 1000 connexions, donc entre l'hébreu, donc qui est une langue phénicique, et les principales langues
indo-européennes
que je viens de citer.
Oui. Alors, c'est une façon pour vous de démontrer que ce qui nous rapproche les uns des autres est plus important que ce qui nous sépare, non ?
Ah oui, tout à fait. Mmh. Les langues, c'est une aventure humaine.
Bien sûr.
Au-delà des différences qui nous séparent, eh bien finalement, elles nous réunissent plus qu'on ne pourrait le penser.
Exactement.
Parce qu'en fait, elles dévoilent le parcours de chaque peuple, mais également les interconnexions culturelles et historiques entre les civilisations.
Oui. C'est vrai. Et vous prenez, alors, dans ce nouvel ouvrage, alors je rappelle quand même que vous avez écrit un certain nombre de livres, toujours aux éditions Valencin d'ailleurs, me semble-t-il.
Oui.
Donc il y a eu, sur les pas de Babel, vous venez d'en parler, il y a eu les trésors étymologiques de la Bible, les racines bibliques des langues occidentales, ce que les langues européennes doivent à l'hébreu, nos ancêtres les hébreux, la Bible au cœur du langage universel. On voit que c'est vraiment un sujet qui vous intéresse et qui vous passionne finalement. Et vous vous attardez dans ce dernier ouvrage notamment, mais dans les précédents également, sur le poids des mots et sur, vous décortiquez en fait certains mots. Alors j'en ai coché quelques-uns, les mots de paracha, de shekel, de shemperati, et puis également j'ai eu la surprise de trouver des prénoms, notamment le prénom Jordan, qui viendrait du fleuve Jourdain.
Tout à fait, le prénom Jordan. Alors, beaucoup pensaient que c'était un prénom d'origine
américaine,
d'origine américaine,
ouais.
Mais en fait, c'est très intéressant parce que ce prénom est bien d'origine hébraïque puisqu'il s'agit de l'Ardenne, le fleuve du Jourdain.
Du fleuve du Jourdain. Et également, puisqu'on parle des prénoms, j'ai été surprise de découvrir que le prénom de Catherine, qui est un prénom porté. Il y a quelques années, maintenant on n'appelle plus les bébés Catherine, les petites filles Catherine. Mais il y a également une racine hébraïque.
Oui, tout à fait. Kataros, qui signifie pur en grec, Toret, signifie les encens.
C'est très étonnant.
En effet, on retrouve un certain nombre de racines hébraïque dans les prénoms français. Je peux citer également Jean qui provient de Yohanan.
Ouais.
Yohanan, donc Jacques de Yaakov. Toute une série de prénoms.
Alors les prénoms, mais également j'ai été surprise de découvrir. On a célébré il y a quelques semaines le bicentenaire de Napoléon. On sait le rôle qu'il a eu dans la création du baccalauréat. Vous parlez du mot baccalauréat qui provient du latin et qui se traduit en hébreu par bakrout, c'est ça ?
Alors tout à fait, bakrout en fait qui signifie la maturité.
La maturité, voilà.
Bagrout signifie la maturité, et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, en italien, le baccalauréat, le diplôme à l'issue de la terminale, se traduit par maturita.
Oui.
Maturita, et ce qui est tout à fait, qui est très intéressant, c'est que, en fait, j'ai établi, par rapport donc à ces liens entre l'italien Maturita, donc, avec ce lien Maturita, en fait, j'ai établi une correspondance consonantique très intéressante entre le mot bachelier,
oui.
Le mot bachelier,
oui.
Justement la racine bachal qui signifie amener à maturité.
Mmh.
Vous voyez.
Ouais, exactement. Donc il y a un certain nombre de noms que vous décortiquez et dont vous nous rappelez les origines, et c'est tout à fait oui. intéressant. Et on voit également que la Bible, bien sûr, c'est un livre fondateur hein, des religions monothéistes, mais c'est aussi une base linguistique que vous décortiquez un petit peu avec beaucoup de passion. Et c'est vrai que ce livre est tout à fait intéressant. Et vous ne manquez pas d'ailleurs de faire des références à des chercheurs célèbres qui vous ont précédé, vous leur rendez hommage, notamment Jacques Azaïs et Alexandre Veil, et puis oui. bien sûr, vous l'avez cité il y a un instant, l'immense linguiste français, d'origine tunisienne d'ailleurs, Claude Agège, hein, évidemment.
Tout à fait, j'ai vraiment tenu à rendre hommage justement oui. à Jacques Azaïs et à Alexandre Veil, parce que c'est deux personnalités du 19e siècle qui avaient oui. établi des correspondances étymologique entre la langue hébraïque et
oui.
les principaux idiomes, de très nombreux idiomes en ce qui concerne Jacques Azaïs, alors que Alexandre Veil s'est attardé sur le français, l'anglais et l'allemand.
Oui.
Alors, c'est d'autant plus méritoire que ce sont des gens qui n'ont pas utilisé eh bien, donc qui vivait au 19e siècle dans des conditions
oui.
que
oui.
Matérielles
qui n'ont rien à voir, oui, qui n'étaient pas forcément favorables,
rien à voir, c'est oui, pas oui. comparable à ce à notre époque
bien
contemporaine.
Sûr. Mmh.
Et donc ils sont consacrés également une partie de leur existence, notamment Jacques Azaïs a consacré une grande partie son existence à la littérature,
mmh.
et quelques années avant son décès, bien il a publié ce fameux ouvrage qui recense de très très nombreux termes,
oui.
Donc de plusieurs dizaines de langues.
Oui.
Avec des connexions avec la langue hébraïque, et je tenais absolument à lui rendre
bien
hommage,
sûr.
Et j'espère qu'un jour l'histoire lui rendra hommage.
Eh ben, on ne peut que l'espérer.
En reconnaissant ce travail.
Oui. Et à votre manière et à travers vos différents ouvrages, vous poursuivez leur œuvre, son œuvre à Jacques Azaïs, mais également à Alexandre Veil. Et je voudrais aussi, pour terminer, Bruno Drey, dire que vous soulignez à juste titre, et je trouve que c'est tout à fait mérité, le rôle d'Eliezer Ben Yehuda. On le sait peu, enfin certains l'ignorent peut-être. Le rôle d'Eliezer Ben Yehuda dans la renaissance de la langue hébraïque, c'est à ma connaissance le seul exemple d'une langue morte qui est devenue vivante. Lors de la renaissance de l'État d'Israël, Eliezer Ben Yehuda a fait un travail absolument formidable pour adapter la langue hébraïque ancienne à la vie moderne. Hein. C'est un travail tout à fait remarquable qu'il a accompli.
C'est le précurseur, en effet, de l'hébreu contemporain. Il avait eu, lui qui était originaire de Lituanie,
oui.
énormément de mérite,
oui.
consacré sa vie justement à cette résurrection
oui.
de la langue biblique,
oui.
et son mérite est en effet très très
oui.
important, et énorme, et
c'est vrai.
Et donc il est évidemment ses travaux, son œuvre est reconnue de manière unilatérale.
Oui.
En Israël.
Et c'était une évidence pour vous de le citer. Je vous remercie.
Absolument. Je tenais aussi à signaler que j'ai rendu hommage
oui, j'allais y venir.
Oui.
Oui, j'allais y venir pour terminer, Bruno Dré. Je voulais préciser à nos auditeurs qu'à la fin de ce petit ouvrage très fourni, vous rendez un hommage vibrant à votre frère jumeau, hélas, qui nous a quittés, Franck, et à vos parents. Vous ne manquez jamais de leur rendre hommage à vos parents dans vos différents livres. Et puis, vous avez tenu à reproduire l'éloge qu'avait fait Frédéric Camard, notre ami Frédéric Camard, président de la communauté de Saint-Fons.
Je salue Frédéric Camard et toute sa famille.
Exactement.
Parce que ce sont des gens qui m'ont toujours soutenu. Ça a été vraiment des gens exemplaires avec qui je suis toujours en relation.
Oui.
Et c'est vrai que c'était
important pour vous
personnes. Oui. En effet, qui m'ont toujours soutenu.
Mais votre fidélité à la communauté de Saint-Fons, à Frédéric Camard notamment, et à notre région, n'a jamais fait défaut. Je vous remercie en tout cas de me tenir informé de vos parutions. Et puis, je rappelle le titre de ce dernier livre paru aux éditions Valencin, David Reynarque, « Les langues européennes à la lumière de la Bible ». Et c'est donc un essai signé Bruno Dré. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été avec nous.
Merci, Patricia. Et donc, bonjour à toute la communauté.
Eh ben, je suis sûre que la communauté sera touchée par votre salut. On se retrouvera une prochaine fois parce que j'imagine que vous allez continuer poursuivre vos recherches. Donc,
voilà. Je poursuis mes recherches et je continue à recenser de nouveaux liens.
Ah, très bien.
C'est assez incroyable. Mais c'est vrai.
C'est sans fin. C'est formidable. Vous les mettez en lumière, tous ces liens, et c'est très bien. Merci Bruno. À très bientôt.
Merci, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
On va découvrir maintenant, si vous le voulez bien, la chronique de Nicole Skinazi-Teboul. Aujourd'hui, bien sûr, Nicole nous parle du mot langue.
C'est un nom féminin qui vient du latin lingua, terme d'anatomie, organe de la parole ou système d'expression commun à un groupe. La langue est un organe musculeux mobile, généralement allongé, situé dans la cavité buccale. C'est un système de signes vocaux ou graphiques, conventionnel, utilisé par un groupe d'individus pour l'expression du mental et de la communication. C'est aussi un système abstrait de signes. Langue. Beau parler n'écorche point la langue. Passer sa langue sur les lèvres, avaler sa langue de soif, tirer la langue, langue sèche ou langue pendante. Délier sa langue, cheveux sur la langue, langue au chat, tourner sa langue, langue bien pendue, se mordre la langue, langue dorée, mot sur la langue, langue de terre, langue de feu, langue de serre, langue de sable, langue de chat, langue glaciaire. Qui langue a Rome va, langue de l'amour, mère des langues, langue sacrée, amour des langues. Et il y a le livre de Bruno Dré, Les langues européennes à la lumière de la Bible. Suite à ses travaux de recherche, l'auteur nous raconte de nombreuses connexions entre les langues européennes avec l'hébreu de la Bible. Il montre ainsi l'apport du judaïsme à toutes ces langues et combien sont nombreux les mots qui possèdent des racines communes. La langue biblique est ainsi parvenue jusqu'à nous par les hommes qui l'ont transportée et l'ont croisée avec les langues de l'Europe pour leur donner par l'usage des apports vivants et enrichissants. Bruno Dré le démontre magistralement. Dans ce beau travail de chercheur, il ajoute un kaddish pour son frère disparu. Cette belle lumière du titre éclaire alors la mémoire du disparu.
Merci Nicole pour cette chronique consacrée au mot langue. Je vous propose pour poursuivre d'écouter la chanson signée Yves Dutheil, La langue de chez nous. Et je me permets de vous préciser, avant d'écouter Yves Dutheil, de vous rappeler le colloque de ce dimanche 30 mai consacré au psychotrauma et aux soins à la Maison d'Izieux de 9h30 à 17h avec de nombreux intervenants dont Boris Cyrulnik. Vous pouvez encore vous inscrire www.memorialisieux.eu. On écoute Yves Dutheil tout de suite. Suite, la langue de chez nous.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux. Parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, vient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans escarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
Toujours sur Radio Judaïque à Lyon avec Patricia Drey, dans votre émission Entre vous et moi. Vous savez que nous parlons littérature, bien sûr. Je viens de recevoir Bruno Drey pour son dernier ouvrage intitulé Les langues européennes à la lumière de la Bible. Et nous allons continuer à parler, non pas littérature, mais culture au sens général du terme, avec une invitée surprise. Bonjour ma chère Martine.
Bonjour Patricia, bonjour à tous les amis de RGL. Vous savez que vous m'avez sacrément manqué.
Vous
et la culture, vous m'avez manqué.
Eh bien vous aussi Martine.
15 mois, c'est une horreur d'être enfermée à la maison.
Eh bien on est d'autant plus ravis de vous accueillir aujourd'hui parce qu'on avait décidé de faire un petit point sur la reprise de la culture que nous attendions tous
bien sûr.
Beaucoup d'impatience. Hein.
Mais déjà Patricia, je vous remercie de m'accueillir dans votre émission pour cette petite chronique avant de reprendre mon petit supplément d'art en septembre, si Dieu veut.
Oui, oui, on l'espère, Martine.
Donc, j'ai de bonnes nouvelles.
Allez.
Après la levée partielle des restrictions dues à la crise sanitaire, nous pourrons enfin emplir nos yeux et nos cœurs de belles choses. La première concerne la Biennale de la Danse, qui aura lieu du 1er au 16 juin avec des aménagements. Vous savez qu'elle aurait dû se dérouler en septembre dernier, si les circonstances sanitaires n'avaient pas mis l'activité du pays en suspens. Donc cette biennale avait lieu toutes les années paires et ben tout est décalé.
Eh oui.
Voilà. Donc avec la biennale d'art contemporain qui elle était les années impaires, mais ils ont permuté. Voilà.
Très bien.
Mais dans un sens, c'est aussi bien, parce qu'en juin, on sent l'été pointer et l'idée des réjouissances estivales prend forme sous le signe de la danse.
Exactement, et Dieu sait qu'on a besoin de renouer avec cette ambiance estivale et festive. Hein.
Bien sûr. Alors, exit le défilé, ou plutôt in situ, puisqu'il se déroulera au Grand Théâtre de Fourvière en 3 représentations et sera réservé aux participants et leurs équipes, mais on pourra le suivre en direct sur FR3.
D'accord.
Vous découvrirez à cette occasion les marionnettes géantes des grandes personnes. Vous savez, cette compagnie de théâtre de rue qui proposera des regards croisés franco-africains. Parce que cette nouvelle édition de la Biennale de la Danse s'inscrit dans la saison Africa 2020 en partenariat avec l'Institut français. C'est une manière de célébrer la créativité africaine entre tradition et hypermodernité. Elle se traduira par la présence de 16 artistes venus de pays d'Afrique, dont la talentueuse chorégraphe Germaine Akoni, qui sera aussi la marraine du défilé, 16 artistes qui encadreront 12 groupes. Cette année, 127 représentations sont programmées dans 37 villes de la métropole et à Lyon, bien sûr, à la Maison de la Danse, au Radiant et aussi en partenariat avec les Nuits de Fourvière.
Ah, c'est énorme, 127 représentations, Martine.
Pardon ?
C'est énorme, 127 représentations, c'est plus que d'habitude, non ?
Non, c'est pas plus que d'habitude,
ah bon.
Et puis c'est raccourci, hein, parce
qu'on
a bien 16
sûr.
Jours.
D'accord, oui, effectivement, oui.
Et en plus, les jauges vont être limitées
bien
à
sûr.
35% d'abord, et puis cette jauge pourra être amenée à évoluer après le 9 juin, pour atteindre 65%.
Oui.
Le couvre-feu étant fixé à 21h jusqu'au 9 juin, les horaires des spectacles prévus avant cette date ont été adaptés. Donc, on va un petit peu jongler.
Oui,
hein.
Il va falloir, c'est vrai. Mais on va s'adapter. Hein.
Tout à fait. Alors, citons dans cette biennale la présence de Yuval Pic, de Joseph Natch, d'Olivier Dubois, de Mathieu Rimbolz, de Thierry Malandin, de José Montalvo, des artistes dont on a déjà pu apprécier le talent à la Maison de la Danse.
Oui, tout à fait. Alors, vous nous en dites un petit peu plus, Martine, sur
ces
spectacles ?
Oui, avec plaisir, Patricia. Alors, je vous suggère 3 spectacles. Vous savez combien j'aime Chopin et Beethoven.
Mm-hmm.
Et ben là, Thierry Malandin me fait un énorme plaisir, puisqu'il compose sur les corps comme sur un piano les états d'âme que Chopin a transcrits dans ses nocturnes entre 1827 et 1846, des langueurs d'amour empreints de mélancolie. Thierry Malandin fait vibrer les corps de ses 22 interprètes, les fait résonner, les fait se répondre. C'est d'une longueur et d'une beauté infinie. Sur la pastorale de Beethoven, donc la 6e symphonie qu'il a écrite, qui évoque le souvenir de la vie rustique où l'on imagine de bucoliques sentiers fleuris, l'innocence, la tranquillité, enfin tout ce qui ressemblerait à la beauté, eh bien, dans la chorégraphie, on retrouvera la sensualité, l'humanité et cette capacité qu'a Thierry Malandin à concilier tradition, création et idéaux humanistes qui transpirent dans chaque œuvre. Et puis, l'autre spectacle dont je voulais vous parler est celui de Mathieu Rimbolz. Vous savez que Mathieu Rimbolz est notre Lyonnais. Il entraîne ses 7 acrobates dans une poésie en apesanteur. Les hauts plateaux, c'est le titre de son spectacle. Une plateforme suspendue et un trampoline où les interprètes se feraient un chemin dans les spirales de brume et les volutes de fumerolles, des variations acrobatiques, jeux de vertige au sein d'un récit d'images d'ombres chinoises évoquant la folie du monde dans un dédale d'échelles magiques. C'est absolument sublime. Et puis, j'aime le travail et la recherche que mène Yuval Pic du CCN de Rieux dans Vocabulary of Need. Il continue l'exploration des liens entre la danse et la musique. Ici, il s'appuie sur la partita numéro 2 en ré mineur de Bach. C'est pas rien quand même.
Oui.
Et ces 8 danseurs montrent l'urgence des corps soutenus par un langage complexe et précis qui se lit comme une calligraphie intime. Une étreinte fugace entre la danse et la musique.
C'est très tentant tout cela, Martine.
Oui, il y a plein d'autres choses.
Et j'imagine.
En tout cas, c'est les trois que j'ai retenues.
Oui.
Et puis, Patricia, les usines Fagor, où s'est déroulée, vous vous souvenez, la Biennale d'art contemporain en 2019.
Bien sûr, vous nous en avez parlé.
Elle accueillera gratuitement et sur réservation une pléiade de jeunes talents pour des performances, des œuvres immersives, des installations, ou par exemple, ce concept unique de battle où tous les styles se rencontrent pour un moment de fête au rythme de la house music. Une occasion de rendre hommage aussi à son inventeur, Ousmane Sy, plus connu sous le nom de Baba, figure internationale de la scène hip-hop, disparu brusquement à 40 ans en décembre dernier. Il était le co-directeur du CCN de Bretagne, à Rennes.
Oui.
D'ailleurs, son dernier spectacle, Queen Blood, sera proposé aux spectateurs au Radiant dans le cadre de la Biennale. Un travail autour du corps féminin et aussi autour de la notion de corps de ballet, où la virtuosité du groupe permet à chaque action individuelle une plus grande valorisation.
Alors, ça, c'était pour la Biennale. Voilà. Et évidemment, on reprend date avec les Nuits de Fourvière.
Bien sûr. C'est ma deuxième bonne nouvelle.
Formidable. Formidable.
Ouais, c'est super. Du 1er juin au 31 juillet avec un aménagement particulier. Vous vous en doutez.
Bien sûr.
Mais Dominique Delorme, le directeur des Nuits de Fourvière, tient à honorer de la meilleure manière les 75 ans de ce festival tant apprécié en maintenant ses 66 représentations de théâtre, danse, musique, opéra et cirque. L'ouverture des nuits, les 1er et 2 juin, accueillera le premier spectacle de la Biennale de la Danse, Alarm Clocks. Une chorégraphe sud-américaine, Robin Orlin, s'associe ici avec la chanteuse Camille, qui a si souvent enchanté le théâtre antique par le passé. Enfin, par le passé, c'est un autre temps.
Le passé récent, quand même.
Plusieurs artistes lyonnais, comme l'incontournable Benjamin Biolay, les 6 et 7 juillet, qui a été sacré artiste masculin de l'année aux dernières victoires de la musique avec son album Grand Prix. Meilleure artiste féminine de ces victoires de la musique 2021, la chanteuse Pomme, qui sera là les 27 et 28 juillet. Tout comme l'inclassable World Kid, les 20 et 21. C'est du 20 au 22 juillet, pardon.
Oui.
Ce seront les régionaux de cette édition qui fait la part belle à la chanson française, puisqu'on y attend aussi Alain Souchon, Catherine Ringer, Jeanne Birkin, Louis Chédid, mon préféré, Philippe Catherine, Stéphane Escher, ce sont les principales têtes d'affiche pour cet été. Et puis parmi les rares grands noms internationaux ayant pu être maintenus dans la programmation d'une année si spéciale, on retiendra le fascinant artiste israélien Asaf
Avidan.
C'est le 1er juillet. La soyeuse américaine Melody Gardot le 3 juillet et la rafraîchissante belge Céline Sciou le 23 juillet. Il ne reste plus qu'à parier pour avoir du beau temps.
Eh oui.
Lors de ces soirées. Nous ne serons plus serrés comme des sardines sur les gratins. Et bien sûr, vous retrouverez l'ensemble des programmations de la Biennale de la Danse et des Nuits de Fourvière sur leur site. Alors, pour les réservations, n'attendez pas trop, parce que si nous aurons de l'espace entre les spectateurs, il n'y aura pas autant de places disponibles.
Et oui.
CQFD.
Forcément. Alors Martine, je sens un énorme bouillonnement qui est en train de se préparer à l'approche de ces dates.
Je suis très 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 impatiente de ce 1er juin qui arrive.
Ouais.
Et puis dans ma prochaine chronique, je vous parlerai de Jazz à Vienne.
Bien sûr.
Retenez déjà la venue d'Avishai Cohen le 5 juillet.
Ah.
Mais là encore, l'amphithéâtre accueillera 3000 personnes au lieu des 6000.
Eh oui,
peut accueillir, avec, je suppose, un certificat de test et un masque. Je ne sais pas si ça va être confortable avec la température de juillet.
Bon, on verra tout ça. L'essentiel étant de participer à tous ces rendez-vous qui nous manquent tant depuis un an. Je me permettrai d'ajouter juste une petite annonce également, Martine, mais je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler dans vos prochaines chroniques ou dans la reprise de votre émission, je l'espère très vite. Swing sous les étoiles à Miribel du 2 au 7 juillet avec la participation cette année de Cali notamment et de Saint-Clair. Et je vous donne pas tout le reste du programme, mais il y a vraiment une belle programmation cette année. Donc ça sera du 2 au 7 juillet 2021. Alors effectivement, tous ces spectacles sont prévus avec des impératifs de jauge, avec des conditions particulières qui nous seront imposées à tous. Mais l'essentiel étant que ces rendez-vous soient à nouveau programmés. Je crois qu'on ne pourra que s'en réjouir les uns et les autres.
Oui, je suis très contente que ce festival puisse avoir lieu, justement.
Bien sûr.
Parce que, c'est adorable. Le décor est magnifique.
Ah, magnifique, oui.
Et puis, les carillons aussi seront là, j'espère.
Oui, bien sûr. On en reparlera, si vous voulez, dans une prochaine chronique que je vous invite à venir faire dans cette émission, si vous n'avez pas la possibilité de reprendre la vôtre, si vous n'avez pas suffisamment de matière pour, malheureusement. D'accord.
Pour faire une chronique en entier.
Mais vous savez que vous êtes la bienvenue, Martine.
Les salles reprennent, les salles de théâtre reprennent aussi, mais vraiment à petite dose.
Oui.
Le TNP, les Célestins, et puis toutes les salles privées ne peuvent pas. Elles n'ont pas suffisamment de possibilités. Une demi-jauge dans une salle de 300 places, c'est pas possible.
Alors donc, vous êtes la bienvenue dans cette émission, entre vous et moi, le mercredi, avec plaisir, pour évoquer les prochains rendez-vous culturels et festifs et estivaux, bien sûr, puisque la saison avance. Que nous aurons plaisir à évoquer avec vous, ma chère Martine. Merci beaucoup d'avoir fait ce point sur la reprise de la vie culturelle qui tient à cœur à tellement de monde. On a hâte, on a hâte. Merci, ma chère Martine.
Merci beaucoup, Patricia.
Avec plaisir, à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Alors, pour terminer, je voulais, bien sûr, comme je le fais habituellement chaque fin d'émission, vous donner quelques indications sur des événements qui vont avoir lieu. Alors, oui, peut-être juste terminer avec l'annonce de ce concours de poésie organisé par le Blé de l'Espérance, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines déjà. Le Blé de l'Espérance, vous le savez, c'est cette magnifique association dirigée par Agnès Chevassu qui permet aux enfants hospitalisés de mieux vivre le quotidien. Un concours qui est ouvert à tous les poètes d'expression francophone majeure et un concours qui distinguera les meilleurs poèmes soumis à un jury dans trois sections. La première, poésie classique. La deuxième, poésie libre. Et la troisième, poésie humoristique. Ça, c'est assez nouveau, je dois dire. C'est à souligner. Les trois premiers prix de chaque section ainsi que le coup de cœur du jury se verront décerner un diplôme, une médaille et une reliure de leur poème finaliste. Et chaque poète est invité à adresser son ou ses poèmes inédits en 3 exemplaires, avec une participation de 20 € pour permettre à l'association de venir améliorer et enjoliver le quotidien des enfants hospitalisés. Donc pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au Blé de l'Espérance. Vous tapez Blé de l'Espérance sur Internet et vous trouvez toutes les précisions. Autre information que je voulais également vous donner, c'est aussi un rendez-vous culturel que nous présentons chaque année sur Radio Judaïque à Lyon. Cette année, le festival Quai du Polar se tiendra du 2 au 4 juillet. Donc c'est une information importante, c'est la 17e édition du Festival International de Lyon, Quai du Polar, avec un format forcément différent, estival et ambitieux. Habituellement, il est programmé un peu plus tôt dans la saison. Il y aura plus d'une centaine d'auteurs qui seront attendus à cette grande fête du polar, des auteurs européens, mais également bien sûr des auteurs français, des auteurs d'enquête et de non-fiction, des auteurs de BD, des auteurs jeunesse, connus ou moins connus. C'est toujours un événement, le Quai du Polar. C'est un festival désormais international et qui va se déployer également dans 20 médiathèques de la ville et de la métropole, deux établissements établissements d'enseignement supérieur, de librairies et dans une dizaine d'institutions culturelles et de lieux partenaires dans toute notre région. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler avec la directrice de ce festival, parce que c'est un festival qu'on aime beaucoup sur Radio Judaïque à Lyon. Donc, Quai du Polar du 2 au 4 juillet 2021. Et puis, je voulais, si j'ai encore un petit peu de temps, je demande à Franck si j'ai encore un petit peu de temps, un tout petit peu. Donc, je voulais vous parler d'un livre que je viens de recevoir, un album de la dessinatrice Coco. Vous savez, Coco, c'est cette dessinatrice de presse qui était bien sûr à Charlie Hebdo. Elle est scénariste et autrice de auteur. J'aime pas trop ce mot d'autrice. Auteur de bande dessinée. Et en 2019, elle a déjà publié avec Raphaël Antoven Le Banquet, qui s'est vendu à 25 000 exemplaires. Hein, donc Coco, c'est une référence. Et donc là, elle publie aux Arènes BD ce formidable album qui s'intitule Dessiner encore. C'est un récit graphique assez bouleversant, parce qu'elle raconte son chemin, son long chemin de la reconstruction après le 7 janvier 2015. C'est donc cet album est le récit graphique d'un voyage intérieur à la fois pudique et authentique. Donc Dessiné encore, paru aux Arènes BD et signé Coco. Et puis peut-être pour terminer, le livre de Fanny Nussbaum, Le secret des performants, paru chez Odile Jacob. Fanny Nussbaum est docteur en psychologie et chercheur en psychologie et neurosciences à l'Université Lyon 1. Et donc, elle a notamment publié chez Odile Jacob un livre intitulé Les philocognitifs, qui a connu un succès considérable et dont je vous avais parlé à cette antenne. Et là, elle nous propose donc un livre sur le secret des performants, qui sont des gens pour qui rien n'est impossible et qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent en captant la lumière et en marquant leur époque. Qui semblent posséder quelque chose de plus grand qui les rend exceptionnels, quelque chose qui les met avec force au service de l'action et de la vie. Quand on les voit à l'œuvre, on ne peut s'empêcher d'être fasciné. Victoire, accomplissement, médaille, applaudissement, succès financier. Leurs résultats, que ce soit dans le monde du sport ou des affaires, dans le monde de la science ou de l'art d'ailleurs, impressionnent par leur apparente facilité. Une facilité qui n'est bien souvent qu'apparente. Alors, quel est donc le secret des performants? Comment expliquer leur prouesse? Posséderaient-ils des qualités que les autres n'ont pas? Une plus grande intelligence, plus d'énergie, un plus haut niveau de conscience? On peut se poser les questions. Et si tout au contraire, la performance, loin de dépendre de telle ou telle capacité, était en réalité un état, tout comme l'état méditatif ou l'état amoureux, que certains ont plus de facilité à atteindre que d'autres? Mais qui est en vérité à la portée de tout le monde, pour peu qu'on se mette dans les bonnes dispositions? Donc j'ai à peine commencé, donc j'imagine que ce sont des secrets que Fanny Nussbaum nous livre pour réussir à être de plus en plus performant dans nos activités et dans notre quotidien. Voilà, c'est sur cette note positive que je terminerai cette émission aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne lecture à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.